works.
Et non, 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 nous ne sommes pas des terroristes, ma bonne dame.
Ce ne sont pas des terroristes, non. Chaque semaine, l'équipe de Divergence Numérique vous tient au courant de l'actualité du logiciel libre et de vos libertés numériques.
Voler, c'est soustraire. La copie, c'est de la multiplication. Quand on vous dit que pirater, c'est voler, on essaye de vous faire croire que la multiplication, c'est la soustraction.
Technologie, politique, philosophie, économie, tous les pans de nos sociétés sont concernés, et chacun d'entre nous aussi.
Diffuser la culture du libre dans tous les villages.
Mentalement, Linux à fond la caisse. J'aime pas qu'on force la main, donc je suis Linux à fond.
Divergence numérique, l'actualité du libre sur Divergence FM, jeudi 12h30 et 17h30.
Créativité, imagination, une communauté, les logiciels libres.
C'est trop corporel.
Tu fais pub. Terrorist Networks.
À présent, nous sommes au téléphone avec Félix Tréguer. Bonjour Félix. Alors, on écoutait à l'instant Un nouveau monde commence maintenant. Celui que nous promet l'ACTA ressemble plutôt au cauchemar d'Orwell qu'au rêve de je sais pas, Victor Hugo. On est là ensemble pour parler de l'ACTA, dont l'actualité est passée en prime time dans les différents journaux, bien que ça fasse quand même plusieurs années que la quadrature du net se bouge pour sensibiliser les gens à ce problème. Donc, on a parlé beaucoup de cette signature de l'Union européenne à Tokyo, et de ces 22 de ces États membres, dont la France, qui ont officiellement signé ACTA, mais il faut préciser que maintenant le processus c'est entre les mains des parlementaires européens. Et puis il y a eu pas mal de mouvements, la démission du rapporteur, certains signataires qui s'en excusent sur le net. C'est un peu le bazar.
Ouais, on sent clairement le vent tourner sur ACTA, rien n'est encore fait, il y a en même temps un gros lobbying de la Commission européenne sur le Parlement européen qui vise à rassurer donc les parlementaires européens qui auront dans les semaines à venir à examiner ACTA en vue de son éventuelle ratification ou de son rejet. Et donc il y a encore beaucoup de travail, mais c'est clair qu'on sent un contexte un peu changé et que de nombreuses personnes prennent conscience des dangers de cet accord.
Alors rappelons-le, un accord qui au titre de la lutte contre la contrefaçon vise à verrouiller l'internet, vise à empêcher des pays souverains de fabriquer des molécules génériques pour les livrer dans d'autres pays qui en ont cruellement besoin. C'est un petit peu tout et n'importe quoi, d'autant que un des principaux problèmes qu'il pose, c'est qu'il a été négocié en toute opacité entre les entreprises, les États, voilà.
Il y a à la fois des problèmes de forme, effectivement, sur le procédé, le processus de négociation qui a été complètement opaque, et aussi le fait qu'on présente au travers d'un accord commercial, soi-disant, des mesures en fait pénales et civiles en matière de lutte contre la contrefaçon. Aussi le fait que dans cet accord, effectivement, on mélange plein de choses différentes, à la fois la contrefaçon, la vraie, qui peut être dangereuse et mettre en péril la sécurité, voilà, des consommateurs et des citoyens, par exemple si on contrefait des pièces automobiles ou ce genre de choses, et des choses complètement inoffensives et même bénéfiques comme le partage de la culture sur Internet ou effectivement le commerce de médicaments génériques et ce genre de choses. Donc c'est clair que c'est un accord qui est voué en fait à conforter les monopoles d'industrie entière qui redoublent d'efforts en vue de maintenir leur contrôle sur l'économie mondiale. Il y a vraiment de ça, et avec un risque extrêmement important effectivement sur les libertés sur Internet. Il y a dans ACTA tout un chapitre de l'accord donc qui concerne les mesures concernant l'environnement numérique, et donc des choses qui contraignent les acteurs de l'internet, donc que ce soit des fournisseurs d'accès, des hébergeurs, mais même des éditeurs de sites internet ou des blogueurs tout simplement, à mettre en place les menaces de sanctions pénales s'ils ne prennent pas en fait des mesures pour lutter contre les infractions aux droits d'auteur. Et donc in fine, même si c'est pas explicitement dit dans l'accord comme ça, clairement ce qui est derrière c'est des mesures de filtrage, de blocage des contenus, de retrait de manière complètement extrajudiciaire, et donc ça pose clairement de gros problèmes en termes de respect des libertés fondamentales. Nous, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le sujet, on n'est pas les seuls à le dire. Il y a comme on le disait tout à l'heure, une opposition grandissante contre ACTA. Effectivement, l'ambassadeur slovène au Japon exprimait ses regrets d'avoir signé cet accord au nom du gouvernement slovène. Il y a le comité européen économique et sociale qui a également indiqué que les droits fondamentaux n'étaient pas pris en considération dans ACTA. Il y a Oxfam qui effectivement critique le fait qu'ACTA met en péril le commerce de médicaments génériques. Il y a les prix Sakharov, donc c'est un prix pour la liberté de penser décerné par le Parlement européen tous les ans, qui se sont également prononcés contre ACTA en mettant l'accent sur son danger pour Internet et aussi le caractère antidémocratique de la manière dont il a été négocié. Et voilà, et tous les partenaires commerciaux principaux de l'Union européenne, qui sont pourtant les principaux destinataires de cet accord, l'Inde, le Brésil ou la Chine, parce qu'ACTA, en fait, in fine, est destiné à être imposé à ces États qui ne font actuellement pas partie des États qui ont négocié ACTA et qui vont le signer ou le ratifier éventuellement. Ces États, donc l'Inde, le Brésil ou la Chine, ont clairement indiqué que jamais ils feraient partie de cet accord. Donc ACTA est un accord commercial voué à l'échec, dangereux et effectivement sans le vent tourner. Donc il faut continuer de travailler et d'informer les citoyens et les élus en vue d'obtenir son rejet.
Quant à la démission du rapporteur, il s'en est expliqué?
Alors il a expliqué effectivement qu'il démissionnait de son poste de rapporteur parce qu'il estimait qu'il parlait de mascarade à propos de la manière dont ACTA était négocié, de mascarade également, surtout les dangers qu'ACTA faisait peser sur le commerce de médicaments génériques, sur la liberté sur Internet. On aurait souhaité que Kader Arif, donc le rapporteur socialiste dans la commission saisie au fond au Parlement européen, qui est la commission commerce international, on aurait souhaité qu'il porte ses critiques jusqu'au bout en faisant un rapport recommandant le rejet d'ACTA. Malheureusement, il a préféré arrêter tout son travail sur la question, mais voilà, c'est vrai qu'il le fait de manière assez spectaculaire et clairement ça indique un peu plus les dangers d'ACTA.
Alors j'imagine qu'il va être remplacé.
Oui, alors là, il y a des négociations actuellement entre les différents groupes politiques au Parlement européen. On sent que, justement, vu la pression citoyenne, les manifestations et toute la polémique autour de cet accord, qu'il y a une vraie peur des parlementaires européens à s'engager, à prendre le dossier entre leurs mains. Donc, on ne sait pas si le dossier laissé par Kader Arif va échoir à un de ses collègues socialistes ou si d'autres groupes politiques du Parlement européen vont se saisir du dossier. C'est en négociation actuellement et donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement comment ça va se passer.
Il n'y a pas un risque justement qu'il soit remplacé par quelqu'un qui soit acquis à la cause d'ACTA?
Un membre du Parti Populaire Européen qui traditionnellement, donc c'est la droite européenne, est traditionnellement plus favorable aux industriels, mais en même temps même dans ce groupe-là il y a des critiques grandissantes contre ACTA, faut voir. Le risque là je pense c'est que la procédure de ratification traîne en longueur et que les parlementaires européens et les lobbies qui sont favorables à ACTA jouent la longueur et fassent un peu traîner le processus pour qu'il y ait un essoufflement en fait de la mobilisation anti-ACTA. Et c'est un peu le danger qui nous guette. Il va vraiment falloir maintenir la pression aussi longtemps que possible et obtenir un engagement ferme quant au rejet de cet accord.
Alors, il y a quelque chose qui est quand même assez assez choquant quand on lit l'article que l'ambassadrice slovène a publié sur Internet où elle s'excuse d'avoir voté ce truc au nom de ses enfants. Alors, il faut préciser que c'est une femme au nom de ses enfants, au nom de pour expliquer à ses relations, ses collaborateurs, etc. On tombe un peu des nues en se demandant comment il est possible que quelqu'un qui occupe ce genre de fonction. Alors, elle explique aussi qu'elle a obéi à sa hiérarchie, en quelque sorte,
Je pense que c'est les affres du travail diplomatique, où effectivement, des ambassadeurs sont chargés par leur gouvernement de signer des choses, d'aller à des réunions sans avoir, c'est ce qu'elle explique aussi dans son article, sans avoir la capacité de vraiment d'analyser chacun des dossiers de manière rigoureuse, quoi. Mais, moi, j'explique comme ça.
Oui. Donc le calendrier maintenant, c'est au Parlement que ça va se passer.
L'étape cruciale à venir, c'est le 1er mars. Il y a la commission de commerce international qui est saisie sur le fond et qui fera son rapport final qui recommandera à l'ensemble du Parlement européen de rejeter, soit de ratifier ACTA. Et donc ils tiennent un premier workshop, un premier atelier le 1er mars où le commissaire européen De Gucht, donc qui est en charge du dossier au niveau de la Commission européenne et qui depuis des jours fait un lobbying intensif et complètement mensonger auprès des parlementaires pour les convaincre qu'ACTA ne pose aucun problème. Donc De Gucht sera là lors de ce workshop. Il y a quelques opposants, mais plutôt des modérés, en tout cas, qui n'ont pas été très actifs ces derniers temps. qui sont invités également à parler sur les panels de cet atelier. On fera en sorte de s'y rendre et de faire en sorte que, voilà, que l'opposition citoyenne à ACTA soit relayée au sein de ce workshop. Mais c'est un peu l'étape cruciale. Dans un mois, il va falloir vraiment, enfin, d'ici là et même après, mais d'ici là, bien s'organiser pour faire valoir nos arguments et expliquer, informer les parlementaires de la commission INTA des dangers d'ACTA et leur expliquer en quoi ça pose problème et montrer à quel point la commission tout simplement raconte des bobards quand elle explique qu'ACTA ne va pas plus loin que le droit européen, qu'ACTA ne pose aucun problème pour les droits fondamentaux, qu'ACTA ne vise pas du tout à criminaliser des pratiques non commerciales comme le partage de la culture ou ne pose aucun problème pour l'accès aux médicaments et ce genre de choses. Et il faut qu'il y ait un vrai travail de pédagogie des élus qui ne maîtrisent pas forcément le dossier, et comme un peu cette ambassadrice slovène qui signe ACTA sans savoir, il faut s'assurer que les parlementaires européens sauront de quoi il s'agit.
Alors justement, là, le 1er mars, donc, c'est la commission commerce internationale. Il y a 4 commissions en tout, parce qu'il y a aussi affaires juridiques, liberté publique et industrie qui doivent se prononcer, ce qui souligne la transversalité de ce traité qui, soi-disant, est sans danger.
Ouais, c'est clair. Mais donc, y a effectivement 4 commissions. Il y a la commission liberté publique, commission affaires juridiques, et chaque commission, je finis mon l'énumération, commission industrie, où là, c'est une députée pirate qui est rapporteur, et enfin, la 4e...
Affaires juridiques.
Commission... Ah, j'oublie.
Affaires juridiques, je crois.
Ouais, affaires juridiques, j'ai pas dit, ok. Là, en l'occurrence, c'est Marielle Gallo, donc la rapporteure PPE, qui est donc une française du groupe UMP, qui est tout à la botte des lobbies. Donc là, ça va être assez... On s'attend à un rapport assez, enfin même très mauvais. Mais effectivement, chacun de ces rapports va jouer dans la position finale qu'adoptera le Parlement européen. Donc toutes ces commissions qui travaillent sur ACTA sont autant d'occasions de faire valoir nos arguments et de convaincre les parlementaires européens.
Sur ces 4 commissions, il y en a-t-il une qui a plus de poids que les autres ?
Non, en l'occurrence, elles ont toutes un peu... il y a la commission développement dont on n'a pas parlé. La commission développement qui se charge effectivement de l'aide humanitaire et des politiques d'aide au développement au niveau de l'Union européenne. Et chacune a un peu son terrain d'expertise sur ACTA, et donc elles sont toutes aussi légitimes à émettre un avis sur cet accord.
Pour terminer, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent qu'il est fort facile de contacter les députés européens par téléphone et aussi de rapporter comment s'est passé l'entretien sur les outils que la Quadrature met à disposition.
Ouais, alors nous, on a donc notre web dossier ACTA, donc qui est accessible à laquadrature.net/ACTA. Et donc, on réunit pas mal d'informations à la fois sur la procédure, également des analyses qui permettent de comprendre ce dont il s'agit et de défaire un peu les arguments pro-ACTA que balance la Commission européenne et d'autres depuis plusieurs jours. Et également une page de campagne sur notre wiki et qui est également accessible sur la page sur le web de CACTA, qui permet en fait de guider un peu les citoyens qui voudraient contacter leurs élus et leur expliquer comment faire pour les contacter et donc leur expliquer à quel point ACTA est dangereux.
Bah merci Félix, je rappelle que tu es chargé de mission auprès de la Quadrature du Net, qu'ici à Divergence nous ne pouvons qu'applaudir des deux nageoires, en te souhaitant bien un bon travail et une bonne journée bien fraîche.
Merci à vous, à bientôt.
Salut.
Au revoir.
Divergence numérique, l'actualité du libre sur Divergence Terrorist FM, States. Jeudi 12h30 et 17h30. Terrorist Networks.